Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale examine la place du Conseil de sécurité au XXIe siècle avec David Malone, sous-secrétaire général et recteur de l'Université des Nations Unies. David Malone vient de chapeauter la rédaction d'un vaste ouvrage qui contient des dizaines d'analyses sur le processus de prise de décision de cet organe et sa capacité à répondre aux principaux défis sécuritaires auxquels le monde fait face au XXIe siècle. La publication de ce livre, le jour même de l'élection de 5 nouveaux membres non permanent du Conseil de sécurité, était l'occasion d'en savoir plus. David Malone, pouvez-vous nous donner un aperçu de ce livre et aussi de ce qu'il vient contribuer aux autres analyses qui ont déjà été faites de cet organe ?
En fait, ce livre succède à un autre recueil qui avait été publié en 2004 et qui, à travers une cinquantaine d'auteurs, livrait une analyse assez sophistiquée du Conseil de sécurité. Mais notre éditeur et plusieurs d'entre nous nous étions rendus compte, il y a environ 3 ans, qu'il y avait un début de retour des tensions entre les grandes puissances, pas toutes les grandes puissances, mais il est certain que la montée de la Chine a provoqué certaines tensions, que les politiques russes et américaines provoquaient des tensions aussi, et que ces tensions commençaient à se répercuter au Conseil de sécurité. Évidemment, l'aventure en Libye, autorisée par le Conseil de sécurité, mais menée par l'OTAN, qui a dépassé de très loin les paramètres en fait de l'autorisation pour culminer en la mort de l'ancien président Kadhafi, ce qui n'avait pas du tout été prévu dans la résolution, a provoqué, je pense, un raidissement par certains États au Conseil de sécurité, pas seulement des membres permanents qui se sont dit « ces Occidentaux, ils sont fous ».
Beaucoup des analyses contenues dans ce livre portent sur le processus de prise de décision au sein du Conseil. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui se passe derrière les murs ?
En fait, c'est très difficile de parler de ce qui se passe derrière les murs parce qu'il y a 2 niveaux de problème. Le premier niveau de problème, c'est qu'autrefois, les consultations informelles qui avaient lieu entre les États membres étaient réellement informelles. On se présentait sans discours adressé à la délégation d'en face, on avait des points de négociation et il y avait une certaine flexibilité dans cette enceinte. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de raidissement, une espèce d'atrophie de réel dialogue dans ces processus informels qui étaient très précieux, en fait, qui permettaient d'avancer vite sur un dossier et de sonder les limites dans les positions nationales. Deuxième niveau de problème, c'est que la transparence a toujours manqué dans les travaux du Conseil de sécurité, mais cette absence de transparence s'est amplifiée dans les années 90, qui étaient des années de grande activité pour le Conseil de sécurité, où, en fait, on s'est rendu compte que les délégations en question étaient tellement occupées qu'elles n'avaient pas le temps vraiment de s'adresser à autrui, aux Nations Unies, et que deuxièmement, il y avait une crainte de fuite et que donc même les membres du secrétariat qui travaillaient sur les dossiers du Conseil de sécurité devenaient de plus en plus secrets eux-mêmes. Donc, un secret malsain, à mon sens, puisque ce sont des dossiers internationaux bien connus, que l'autorité du Conseil de sécurité dépend beaucoup du consentement des autres États et que le consentement des autres États est de moins en moins évident face à un Conseil de sécurité qui est tout de même très secret.
Come, you masters of war. You that build the big guns.
Le Conseil risque-t-il de perdre de sa pertinence ou de la confiance qu'on lui octroie ?
Je pense qu'il y a une question de confiance et aussi de bienveillance des autres États membres. Après tout, ils ne sont que 15 au Conseil de sécurité et ils décident pour les autres. Les autres doivent se sentir à l'aise avec le Conseil décideur et ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Le Conseil, à la fois sur le fond mais beaucoup sur la forme, est assez contesté par les États membres sur la sélection du prochain secrétaire général, par exemple, sur des décisions décisions ponctuelles, mais aussi sur ce manque de transparence, sur ce manque de consultation des autres États membres qui réellement irrite beaucoup. Évidemment, les membres permanents peuvent dire « Écoutez, on s'en fiche, après tout, nous sommes permanents. Si les autres ne sont pas contents, c'est le même prix. » Mais ce serait idiot parce que le consentement des autres États est essentiel au bon fonctionnement de l'organisation, puisque s'il y a défection des autres États membres face aux décisions du Conseil de sécurité, il ne reste rien de l'autorité du Conseil de sécurité. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience d'un mécontentement grandissant, pas encore dramatique, mais sérieux, avec les comportements du Conseil de sécurité, particulièrement les 5 membres permanents, mais en général, même les membres élus souvent deviennent peu transparents une fois qu'ils sont au Conseil et se comportent comme les vassaux des 5 permanents plutôt que les représentants des États qui les ont élus.
Passer l'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés.
La réforme du Conseil de sécurité est débattue maintenant depuis presque 20 ans, je crois. Où en est le processus et pensez-vous qu'il va aboutir un jour?
C'est un paradoxe parce qu'en fait, si ce processus n'aboutit pas sur un changement, et le changement peut prendre plusieurs formes, pourrait prendre la forme d'ajouter plusieurs sièges permanents avec ou sans veto et plusieurs sièges supplémentaires élus, ou pourrait prendre la forme d'un nouveau statut de siège élu, mais pour des périodes plus longues et immédiatement renouvelables, qui permettrait une semi-permanence de certains États émergents ou de grande envergure à l'échelle internationale. Pensez Brésil, Inde, Allemagne, Japon, par exemple. Donc ça ne culbute pas sur simplement une idée de réforme. Mais les méthodes de travail du Conseil de sécurité doivent évoluer aussi. Le Conseil de sécurité est devenu assez arrogant. C'est nous le Conseil, le reste, on s'en fiche. C'est pas sage, c'est possible, mais est-ce sage à long terme? L'ONU vieillit. L'ONU est beaucoup moins d'actualité qu'il l'était il y a 20 ans. Donc, le Conseil de sécurité doit réfléchir sur son renouveau avec une perspective de durer encore 30-40 ans comme la clé de voûte finalement de l'architecture de sécurité internationale. Rôle qu'elle a dans le droit international, mais rôle qui pourrait lui faire de plus en plus défaut dans les faits. Je vous donne un exemple possible. Il n'y a pas de réforme de Conseil de sécurité, il y a un mécontentement grandissant parmi les États émergents, d'autres États en fait très puissants comme l'Allemagne, et une crise survient où en fait, les 5 permanents ne suffisent pas du tout à régler et où les pays émergents sont au moins aussi importants que dans le règlement. Pourquoi ces États rejoindraient-ils les membres permanents dans un Conseil de sécurité où ils jouent avec un désavantage souverain face aux États permanents? Au contraire, ils insisteront que la négociation ait lieu ailleurs dans une parfaite égalité des États concernés. Si les membres permanents veulent réduire le Conseil de sécurité à être simplement un avaliseur de décisions prises ailleurs, ils sont bien partis. Donc, à moins de vouloir ce résultat qui serait inéluctable sur une période d'une vingtaine d'années, autant s'ouvrir un peu à des possibilités de réforme dont beaucoup ne sont pas très radicales au départ. On this Jacob's ladder, the only way up is down.
One step from disaster, two to make the higher ground. Une autre critique qui est souvent formulée, c'est le fait que l'Afrique n'a jamais occupé un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, alors que la majorité des dossiers, disons, dont on traite le Conseil, ce sont des situations qui se trouvent dans le continent.
C'est vrai, mais la population de l'Inde correspond à peu près à la population de l'Afrique, et l'Inde n'a pas siégé non plus comme membre permanent. Donc ça, c'est pour moi un argument qui est peu porteur, parce qu'il y a beaucoup de régions qui ne sont pas représentées au Conseil de sécurité. Par contre, les Africains ont un avantage important. Ils ont une organisation régionale très conséquente qui, en fait, a obligé le Conseil de sécurité à traiter avec lui. Et ce n'est pas le cas de l'Asie, et ce n'est pas non plus le cas de l'Amérique latine. Donc le dialogue entre l'Union africaine et parfois des organisations sous-régionales de l'Afrique, l'UMOA par exemple, est quelque chose qui est inéluctable maintenant pour le Conseil de sécurité quand il se penche sur des dossiers des pays appartenant à ces organisations. Je pense que toutes ces régions du monde en développement méritent plus de représentation au Conseil. La vérité est que le veto est très impopulaire parmi les États membres qui n'ont pas le veto. Il n'y a aucune envie de créer des vetos supplémentaires parmi les membres des Nations Unies qui n'en ont pas, à part les candidats pour des sièges permanents qui aimeraient bien aussi obtenir un veto. Donc, une formule intérimaire qui permettrait aux États de continents émergents, dont l'Afrique, à avoir un ou deux représentants semi-permanents, permettrait à ces États semi-permanents de maîtriser beaucoup mieux le Conseil de sécurité que ne peut le faire un État élu en 2 ans. Vous savez, 2 ans, ça passe très très vite. Le temps que ça passe, les États membres élus ont à peine le temps de s'apprentir au Conseil, d'autant plus que rien n'est fait pour leur rendre la tâche facile.
Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon.
Vous avez mentionné le droit de veto. Il y a une proposition qui circule pour limiter son utilisation, pour ne justement pas l'utiliser, par exemple, dans les cas de génocide. Est-ce que cela vous semble réaliste?
D'abord, le mouvement est très sain, puisqu'il traduit une opinion qui est assez largement partagée parmi les États membres. Si c'est le seul moyen d'attirer l'attention des membres permanents sur le sentiment des membres, c'est une très bonne initiative. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels les États membres pourraient s'organiser de la même façon. Face à cela, il y a 3 membres permanents qui sont très puissants sur le plan militaire, pas toujours économique, et qui peuvent adopter l'attitude d'écouter ces États nains, ces États dont on se fiche finalement, ils ont beau se manifester, on y prête garde. Mais ce serait malheureux et, comme je vous dis, à la longue, ça minera le rôle central du Conseil de sécurité, vu que les réalités internationales ne sont plus reflétées du tout, ni dans la manière de travailler du Conseil de sécurité, ni du tout dans sa composition.
À propos de composition, l'Assemblée générale vient d'élire 5 nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité. Il y a donc l'Égypte, le Japon, l'Ukraine, le Sénégal et l'Uruguay. Qu'anticipez-vous dans la dynamique au sein du Conseil à partir du 1er janvier 2016?
D'abord, il y a des membres qui se font élire sur une plateforme électorale. D'autres États se font élire sans avoir une idée très claire de ce qu'ils tenteront de réaliser une fois au Conseil de sécurité. Les États qui se sont organisés à l'avance pour avoir un plan d'action au Conseil de sécurité souvent peuvent être très efficaces et sont d'ailleurs assez déroutants pour les membres permanents parce qu'ils sont les seuls à avoir l'habitude d'avoir un programme d'action ou d'inaction selon le cas. Deuxièmement, chaque État a sa propre personnalité, ses propres problèmes, sa propre situation géostratégique. Pensez l'Ukraine, pensez le Japon. C'est pas exactement la même chose que l'Uruguay. L'Uruguay qui est un pays démocratiquement admirable. Donc chacun amène des avantages et sans doute aussi quelques handicaps au Conseil de sécurité. Je pense que souvent la spéculation est un peu futile. Pourquoi? On pourrait penser que le Japon arrive prêt à confronter la Chine sur leurs différences soit territoriaux, soit d'interprétation de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et ça pourrait arriver. Mais en fait, le Japon arrivera avec un grand nombre de dossiers à gérer, dont celui de la Corée du Nord, qui est un voisin comme l'est la Fédération russe, comme l'est la Chine, comme l'est la République coréenne, de la Corée du Nord. Et donc, une certaine collaboration aussi est nécessaire sur des dossiers où on partage les préoccupations du voisin avec qui, par ailleurs, on peut avoir d'autres différends. Donc, les États membres nouvellement arrivés au Conseil doivent réfléchir quels dossiers ils veulent traiter en douceur, quoi faire tranquillement, quoi revendiquer publiquement au Conseil de sécurité.
Et c'est avec David Malone, recteur de l'Université des Nations Unies, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.